Quel nom merveilleux tu nous as donné, Père. Ce nom qui sauve. Ce nom qui guérit. Ce nom qui libère. Ce nom qui délivre. Nous te remercions. Te remercions, Père, d'avoir pensé à nous. Te remercions d'avoir eu notre bonheur sur ton cœur. Te remercions de nous avoir désirés. Te remercions parce que lorsque nous étions encore morts dans nos péchés, Christ est mort pour nous. Te remercions pour ce sacrifice, pour cette abnégation, pour cet amour parfait, cet amour extraordinaire. Et te remercions pour tout ce que signifie l'incarnation, le fait que Dieu se soit fait homme. Père, nous saisissons dans une certaine mesure. Nous avons tellement besoin de saisir. Nous avons tellement besoin de comprendre. Nous avons tellement besoin d'aller au-delà du raisonnement humain et de pénétrer les profondeurs de Dieu. Nous avons tellement besoin de saisir le sens des choses qui nous paraissent pourtant simples. Père, ce matin, nous te demandons la révélation. Te demandons de nous parler. Te demandons de parler à notre cœur. De parler à ce qu'il y a de plus profond en nous. Nous te demandons de réveiller ce qui est mort. Nous te demandons de donner la vie là où il n'y a pas de vie spirituelle. Nous te demandons d'animer là où nous nous sommes laissés tiédir. Père, nous ne pouvons contempler en si grand salut et ne pas nous extasier dans ta présence. La joie que nous manifestons est tellement peu en comparaison avec la joie réelle qui est rattachée à cette glorieuse réalité de Dieu qui s'est fait homme. Père, nous voulons saisir davantage. Nous voulons comprendre davantage. Nous voulons t'aimer davantage. Nous voulons aimer davantage le Fils. Nous voulons être davantage attachés à ta parole et à ton évangile. Nous voulons que les choses de Dieu deviennent partie intégrante de notre être. Nous voulons bouillonner. Nous ne voulons plus être tièdes et contempler des choses merveilleuses avec un regard distant. Père, nous voulons que ces choses glorieuses, extraordinaires, qui dépassent l'entendement humain, deviennent notre réalité. Père céleste, nous sommes humains, mais tu nous as fait en ton image, avec la capacité de percevoir des choses spirituelles et de vivre conditionné par ce qui est spirituel et non pas déterminé par ce qui est naturel. Père, nous voulons cette réalité spirituelle de Dieu. Nous voulons que cette réalité descende dans nos cœurs. Nous voulons corps, âme et esprit t'appartenir entièrement, voir les choses comme tu les vois, non pas comme notre génération les voit, non pas comme ils le voient à la télévision ou dans notre entourage, mais nous voulons voir comme Dieu voit. Amen. Père céleste, en ce jour où nous célébrons la venue de ton Fils sur la terre, nous te demandons de nous communiquer cette réalité extraordinaire qui est Dieu s'est fait homme. Nous voulons que cela pénètre nos os, que cela pénètre nos entrailles, que cela pénètre tout ce que nous sommes, que nous voyions ces choses et que nous puissions nous en réjouir. Père, nous savons que ce que tu sais est infini. Mais nous savons aussi que tu aimes partager avec nous ce que tu sais. Nous savons, Père, que tu n'es pas obscurantiste. Tu veux que tes enfants comprennent, voient, saisissent et vivent dans une pleine conscience de ce qu'est cet évangile que nous avons reçu. Père, ce que nous demandons ce matin, c'est que tu commences quelque chose qui va continuer pour le restant de nos jours. La révélation quotidienne, la compréhension, là où nos yeux ont été voilés, que les écailles tombent. Amen. Et que ces choses merveilleuses deviennent de nouveau merveilleuses à nos yeux. Père, nous te remercions. Te demandons par ton esprit de partager ce que tu sais avec nous. Et de manière surnaturelle, d'ouvrir nos cœurs et d'implanter, de faire jaillir, de faire grandir en nous ces choses merveilleuses qui, elles, sont éternelles. dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je vous invite à vous asseoir et à ouvrir dans Luc chapitre 2. Glory to God. En faisant un grand sourire à la personne à côté de vous. Surtout qu'elle se sente à l'aise. Glory to God. Chaque jour de l'année est Noël. Chaque jour de l'année est une célébration de la bonté de Dieu. Mais nous profitons spécialement du fait qu'il y a un jour qui est mis à part, non pas pour recevoir le nouveau Kindle, ni la liseuse de la FNAC, mais pour recevoir de nouveau une révélation de la bonté de Dieu qui nous a donné son Fils. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime Jésus. Ah, vous êtes d'accord avec moi que j'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Et je suis comme l'apôtre Paul qui dit, nous n'avons pas honte de l'Évangile. Dans notre génération, beaucoup de gens ont honte de l'Évangile. C'est pour cela que nous avons besoin de la révélation de l'Évangile. Parce que ce n'est pas quelque chose dont on doit avoir honte, c'est quelque chose que l'on doit porter comme un badge. Amen. Je suis à Jésus. Amen. I belong to Jesus. Amen. I belong to Jesus. I belong to Jesus. Glory to God. À chaque fois qu'il y a des gens nouveaux, je dois leur dire que quand je parle en anglais, ce n'est pas une affectation, c'est parce que je suis anglophone et ça sort, c'est plus fort que moi. Alléluia! God is so good. Dans Luc chapitre 2, il y a un événement merveilleux qui est annoncé. Dieu, de sa façon si extraordinaire, de cette manière qu'il a d'amener les choses à l'existence et d'orchestrer les circonstances, même humaines et naturelles, pour que ce que lui veut puisse s'accomplir, a orchestré les circonstances de telle sorte que des braves gens qui vaquaient à leurs occupations étaient obligés par un décret de César Auguste qui ne savait pas qu'il faisait la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu n'est pas merveilleux? De partir pour aller participer à un recensement. Et Joseph et Marie sont partis pour participer à ce recensement. Et pendant qu'ils étaient là, l'enfant est né. For to us, a child is born. To us, a son is given. Hallelujah. Et la parole de Dieu nous dit au verset 8, si vous êtes dans Luc chapitre 2, au verset 8, vous allez lire avec moi. Si vous n'y êtes pas, vous allez écouter et me faire confiance que ça vient vraiment de la parole de Dieu. Et que ce n'est pas l'Évangile selon Pasteur Bola. Luc chapitre 2, verset 8. Il y avait dans cette même contrée, il nous a dit que Marie a accouché de son premier enfant. Glory to God. Et par la suite, des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, vous l'auriez été aussi. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, non, craignez point, car je vous annonce une
bonne nouvelle.
Vous n'en êtes pas persuadé. Je vous annonce une
bonne nouvelle. Oh,
à voir certains chrétiens aujourd'hui, on croirait que c'était une mauvaise nouvelle. Une bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. Une bonne nouvelle. Il a fallu que les anges descendent du ciel pour venir sur la terre pour dire, il y a une
bonne nouvelle.
Une bonne nouvelle. Quand quelqu'un vous demande pourquoi tu es si heureux, c'est parce que j'ai connu une bonne nouvelle. Et elle ne vieillit pas, cette nouvelle. Qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande
joie.
Une grande tristesse. L'obligation d'être chrétien dans un monde où les gens ne croient pas en Dieu et on vous regarde au travers parce qu'ils vous traitent d'intégriste. Non, une grande
joie
pour tout le peuple, dans toutes les générations, yes. Quelle soit, croyante ou pas croyante, hostile ou pas hostile, c'est toujours une bonne nouvelle, yes. Et c'est toujours une grande joie. Alléluia. Dieu est fort. Oh, God is good. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignait à l'ange, une multitude de l'armée céleste. Parfois, je m'assieds et je réfléchis. Je me dis, Seigneur, Père, j'aurais tellement voulu comprendre la joie que tu as ressentie quand enfin Jésus est venu sur la terre. Parce que vous comprenez, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas un jour, Dieu a eu une idée. Il a dit, mais tiens, ils sont assez mal en point. On va faire quelque chose? Oui. Bon, je vais y aller, Père, je vais y aller parce que ça ne va pas là. Il y a autre chose qu'on pourrait faire? Non, ce n'est pas une idée qui lui est venue comme ça. C'est quelque chose qu'il a prévu depuis longtemps, qu'il a planifié, qu'il a orchestré, génération après génération. Au début du culte, nous avons lu la prophétie du prophète Ésaïe, des centaines d'années avant la venue de Jésus. Dieu patiemment a mis les choses en place, a continué à penser à nous, a continué à penser à vous, parce qu'il voulait qu'un jour, vous soyez ici en train de dire, Jésus est
merveilleux.
Alléluia. Planifié et orchestré. Et la joie que le Père devait ressentir. Et la joie que les anges ont ressentie. Et ils n'ont pas pu s'en empêcher. Il y en a un qui est venu annoncer la nouvelle. Après, il y a une multitude qui est venue pour chanter. Vous comprenez maintenant pourquoi on chante? Parce qu'on chante au ciel. Prenez l'habitude de chanter ici.
Amen.
Si vous n'avez pas de voix, pas trop fort. Oh, God is good. Une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les lieux très haut. Et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Il y a des gens qui disent, oui, mais la religion amène la guerre. Non, ce n'est pas la religion qui amène la guerre. C'est la méchanceté des hommes qui amène la guerre.
Amen.
Glory to God. Ça avait l'amour de Jésus. On aimerait les gens au lieu de les tuer. Oh, God is so good. Et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem. Et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et ils trouvaient Marie et Joseph. Et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent furent dans l'étonnement de ce que disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournaient, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. C'était une bonne nouvelle d'une grande joie. C'est conforme. Dites conforme.
Conforme.
Nous pouvons dire conforme.
Conforme.
C'est conforme.
C'est conforme.
Estampillé conforme.
Alléluia.
Dieu ne ment pas, il ne fait pas de fausses promesses. Lorsqu'il dit que c'est une bonne nouvelle, c'est que c'est une bonne nouvelle pour moi, pour vous, pour chacun de vous ici aujourd'hui.
Amen.
Lorsqu'il dit que c'est un sujet de joie, c'est que c'est ton sujet
Amen.
De joie. Alléluia. Glory to God. Et ce qui est merveilleux, c'est que dans notre génération, nous sommes arrivés à en faire un moment de cadeau individuel. Et quand nous, on était enfants, le moment de Noël était un moment d'enchantement. Mais alors, vous n'imaginez même pas. Vous savez pourquoi? Parce que on était à l'internat. Ne me plaignez pas, c'était très bien. Et après, vous êtes à l'internat. Ouh, le pute, tu es maturisé, traumatisé. Non, pas du tout, j'en suis sortie. Et on revenait pour les vacances. Et donc, il y avait les fêtes de Noël. Il y avait toujours les fêtes, la fête. Et aussi le mois des cadeaux. Et on achetait de nouveaux vêtements et de nouvelles chaussures. Et si vous voyez des photos de moi enfant, vous comprenez que les vêtements... C'était très apprécié. Et on pouvait choisir. Ce n'était pas des shorts pour aller. Non, c'était des vêtements. Hein? Et ensuite, l'anniversaire de mon frère était juste après Noël. Et le mien, juste après le sien. Donc, c'était la fête. Et on était le centre de l'attention. Parce qu'on faisait, bien sûr, les célébrations de Noël. Et ensuite, c'était l'anniversaire. Il y a tellement de photos de nous en train de couper le gâteau. Et on était trois parce que ma sœur est née au mois de novembre. Mais puisqu'on l'aimait, on la joignait à nous. Elle célébrait avec nous. Et après, c'était le nouvel an. Et c'était tout ce moment était magique, n'est-ce pas? Les cadeaux, l'attention. Et on croyait que Noël, c'était fait spécialement pour nous. C'était pour nous. Et on recevait des cadeaux. Et les cadeaux évoluent avec l'année, n'est-ce pas? Et évoluent avec le temps. Je me souviens encore, il y avait un appareil que mon père avait que je lorgnais. Oh, mais il ne me l'a pas donné. Je trouvais que vraiment c'était dur. Il n'était pas gentil. Mais vous savez, si on me donnait cet appareil, je dis, c'est quoi ça? C'est vieux ce truc-là. Vous savez pourquoi? Parce que les choses évoluent. n'est-ce pas? Les cadeaux évoluent. Et nous savons tous comment c'est. Quand on ressent... Oh! On m'a mis dans la chambre, on regarde le matin, on regarde le soir. On vient manger, non, j'arrive. Sans parler de ce qu'on reçoit. C'est gentil, oh, merci. C'est gentil, merci. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Et les cadeaux évoluent, deviennent de plus en plus sophistiqués. N'est-ce pas? Et on a même des moyens sophistiqués de nous en débarrasser. Parce que j'ai entendu à la radio, et pour ceux qui ne le savent pas, c'est un scoop. J'ai entendu à la radio que maintenant, il y a un moyen de vendre ces cadeaux sur Internet. Dès que Noël est fini, on peut vendre son cadeau sur Internet. Ah, merci, c'est gentil. Oh, vraiment, je... Bon, tac, point. On va s'en débarrasser tranquillement. Et nos maisons, parfois, sont remplies d'anciens cadeaux, n'est-ce pas? Des cadeaux que nous avions aimés, comme si on ne prend pas celui-là. Et après, on a perdu leur valeur. Parce que quelque chose de meilleur est arrivé. Je suis en train de lorgner le nouveau Kindle, mais j'ai un Kindle de l'année dernière. Ils ont eu la mauvaise idée d'en faire un nouveau cette année, qui a une fonction supplémentaire. Vous comprenez que le mien n'a pas. Et le mien commence à devenir... L'année dernière, c'était... Wow! En fait, je l'ai même acheté en début d'année, mais il est sorti l'année dernière. Maintenant, il y a un nouveau. Et tellement de choses qui deviennent obsolètes, perdent leur valeur. Que nous, on grandit, on évolue. Et on regarde, on dit, oh non, ce n'est plus ça. Ou parfois même, ils sont cassés. Vous savez, ces appareils que l'on donne aux enfants, ça marche pendant un certain temps. Après, les piles, on doit les changer, on les change, mais ça ne marche toujours pas. Et on change encore les piles, on dépense beaucoup d'argent sur les piles. Et, oh, made in China. Et on continue à en chercher des cadeaux, n'est-ce pas? Mais il y a toujours des meilleurs qui arrivent. Et maintenant, il y a PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 20, PlayStation 60. On va y arriver. Mais non, on peut changer de nom. Et ça change et ça évolue. Rien n'est permanent. N'est-ce pas? Et nous continuons à désirer et à chercher. Et nos vies sont un peu comme ça. Nos vies sont remplies d'anciennes relations. Des relations qui étaient merveilleuses, mais qui ne le sont plus du tout. Parce qu'elle a changé. C'est peut-être nous qui avons changé. Parce qu'il s'est cassé quelque chose. Et nos vies sont jonchées de mémoires brisées, de souvenirs tristes. Et il y a comme un empilement de toutes ces choses qui en réalité ne servent à rien, mais qui nous encombrent l'existence. Et on veut toujours quelque chose de plus, n'est-ce pas? Il n'y a pas une personne qui, à Noël, dit « je ne veux rien ». Mais j'espère quelque chose. On veut toujours quelque chose de plus. Et c'est normal de vouloir quelque chose de plus. Parce que Dieu nous a créés pour quelque chose de plus que ce que nous avons. Amen. Est-ce que vous me suivez? Et tout ce que nous prenons, que nous aimons pendant un certain temps, que ne dure jamais parce que ce n'est pas censé durer. Ce n'est pas censé durer. Bon, il y a des choses qui sont censées durer un peu plus longtemps. C'est comme quand vous offrez un pantalon à quelqu'un et deux semaines après, c'est déchiré. Ça vous fait mal. Vous dites, mais quand même, c'était censé durer plus que deux semaines. Il y a des choses qui sont censées durer un peu plus que... Mais rien ne peut durer éternellement. Et c'est pour cela que nous sommes constamment en quête et nous regardons ici et nous regardons là, mais nous ne regardons pas là où nous devrions regarder. Et Dieu savait tout cela. Et comme je disais, ce n'est pas une idée saugrenue qu'il a eue à un moment donné. Tiens, pourquoi tu ne vas pas faire un tour sur la terre? Tiens, parce que ça ne va pas. Il savait que ça n'allait pas. Et c'est pour cela que lorsque l'ange a annoncé la naissance de Jésus, il a dit que c'est une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est pourquoi c'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né en sauveur. Parce que nous avons besoin d'être sauvés. Il a dit, mais je n'ai pas besoin d'être sauvé. Si. Vous avez besoin d'être sauvé. Est-ce que vous pouvez dire à votre voisin, tu as besoin d'être sauvé? Non, tu as besoin d'être sauvé. Nous avons besoin d'être sauvés. Et Dieu nous a donné le cadeau suprême. Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Non, il nous a donné le cadeau suprême. C'est le cadeau qui ne se casse jamais. Qui ne devient jamais obsolète. Qui ne se fatigue jamais. Vous savez, il y a un cliché en anglais, on parle de « the gift that keeps giving ». C'était utilisé pour les pubs et après c'est devenu un cliché. C'est le don qui continue de donner. Donc il y a des gens qui vont dire, tu prends cet appareil, c'est le don qui continue de donner, c'est-à-dire que ça va toujours fonctionner. Ou vous contribuez de l'argent à mon organisme de bienfaisance préféré, ça va aider les gens en Afrique. Ils ont besoin d'aide en Afrique. Ouais. C'est l'argument de vente majeur. Vous achetez notre produit, on donne de l'argent aux Africains. Vous n'êtes pas d'accord? Et c'est le don qui continue d'avoir un effet, n'est-ce pas? Mais on peut chercher partout, il n'y a aucun don qui continue perpétuellement, éternellement, sinon le don que Dieu a fait. Et la raison pour cela, c'est parce que c'est le don qui répond à nos besoins les plus profonds. Tous ces jolis vêtements que j'ai eus enfant ont répondu à un besoin présent à l'époque d'être jolie. Il s'est trouvé que j'ai grandi. Et j'ai encore dans mon armoire la robe que j'ai portée pour mes 21 ans. Mais elle est dans mon armoire. Vous ne l'avez pas vue. Et pour cause, j'ai grandi. Mais c'est important pour nous de saisir ces choses. Un don qui ne se casse jamais. Qui ne devient jamais obsolète. Qui ne perd jamais sa valeur. Qui ne devient jamais le cadeau de l'année dernière. Il n'y a jamais un nouveau modèle, jamais une fonction supplémentaire. La perfection même. Et Dieu savait que nous en avions besoin. Et c'est cela qu'il nous a donné. Il a donné le don qui apaise nos craintes. Le don qui donne la paix. La paix. La paix. Le don qui répond à tous nos besoins. Dans Luc chapitre 2, verset 10, il nous dit « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un qui est le Seigneur. » Et ce qui est intéressant ici, c'est que ces gens sont allés voir. Ils sont allés voir. Et quand ils sont allés, ils ont regardé. Ils ont vu. Ils ont compris que c'était vrai ce qui leur a été dit. Et nous avons besoin de décider d'aller voir. Et parfois, les gens ne cherchent même pas à voir. Ils veulent que ça vienne jusqu'à eux. Et si je n'en suis pas convaincue d'emblée, c'est que ce n'est pas vrai. Je parlais avec quelqu'un une fois de Jésus, et combien il était merveilleux. La personne me regardait, mais si c'était vrai, ça se saurait. Je dis, mais ça se sait, c'est que toi, tu ne le sais pas. C'était vrai, ça se sait. La preuve, je t'en parle. Mais il y a un choix personnel de décider d'aller voir. Les bergers auraient pu dire, ouais, si c'était vrai, ils viendraient ici nous montrer l'enfant. Je dis, mais on va aller voir. Est-ce que vous irez voir? Est-ce que vous irez voir? Vous vous poserez la question. Vous allez dire, oui, mais bon, si c'était vrai. Mais j'aimerais tellement avoir la foi. Il y a des questions, des choses étonnantes que les gens me disent. Oh, je t'envie ta foi. J'aimerais tellement avoir la foi. Mais c'est évident que c'est facile d'avoir la foi. Il faut décider d'aller voir. Et chacun de nous qui un jour a donné sa vie au Seigneur a décidé d'aller voir. Tous les gens qui vous parlaient non-stop de Dieu et dont je me moquais, je les remercie. Parce qu'ils m'ont tellement harcelé qu'un jour, j'ai décidé d'aller voir. Pour pouvoir régler ces questions une fois pour toutes et leur dire, maintenant, vous me, pardonnez l'expression, lâchez les baskets. Parce qu'en dépit de toutes les méchancetés que j'ai pu leur dire, il y avait toujours un qui sortait de quelque part pour venir parler de Jésus. Je vous invite à le voir pendant cette saison de Noël. Jésus est le grand oublié de Noël, en fait. Après la dinde et le chapon et le saumon d'Alaska, je vous préviens. Vaut mieux le saumon d'Alaska. Ah, vous avez acheté de l'Atlantique, désolé. Vous pouvez l'amener. Après le sapin et les décorations de sapin, toutes ces choses qui ont une valeur très éphémère. Nous les avons faites l'année dernière. Nous avons été épuisés à la fin. Nous n'avons souhaité qu'une chose, que tout le monde parte chez eux, qu'on puisse dormir un peu. On a assez mangé, maintenant il faut maigrir. Je vous invite à voir. Que vous connaissiez déjà Jésus, que vous vous posiez des questions, allez voir. Allez voir auprès de Dieu. Vous demandez, est-ce que Dieu existe? Il existe. Croyez-moi, il existe. Ils sont allés voir. Et parce qu'ils sont allés voir, ils ont vu. Et ils l'ont adoré. Nous ne pouvons pas vivre comme des gens. Chaque année, à la fin de l'année, ils font la liste de ceux qui nous ont quittés. Il y a souvent des journaux qui vont dire, ils nous ont quittés en 2013. Je me pose toujours la question, ça va, pourquoi les gens, à ces moments-là, ne se posent pas la question, ça va, où ils sont partis? Et où eux partiront? Nous pouvons nous voiler les yeux, dire après la mort, c'est fini. Mais ce n'est pas une attitude sensée, pardonnez-moi. Nous ne sommes pas venus de nulle part, nous n'allons pas partir nulle part. Ils sont allés voir. Est-ce que vous irez voir? Ils sont allés voir. Dans Matthieu 1, 21, la parole de Dieu nous dit ceci, « Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. » C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. Et une des choses que nous disons lorsque nous parlons de sauver les gens de péché, c'est que nous expliquons le fait que nous avons tous besoin d'être sauvés. Et j'aime bien en anglais. En anglais, on dit toujours, « Are you saved? » En français, on est beaucoup plus diplomate. « Oh, tu connais le Seigneur? » On dit, « Are you saved? » Et les gens, au bout d'un moment, ils étaient irrités. Je faisais partie, j'étais irritée. Save from what? Sauvé de quoi? Parce que j'ai l'air d'être malheureux. Il nous a dit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et c'est intéressant parce que même l'Église est en train de revoir le mot péché. Parce que ce n'est pas très populaire. Quelqu'un m'a demandé une fois, un ami, il est venu à la maison, il a lu tous mes livres chrétiens. Et il a dit, oh, mais tu es à fond dedans. Donc tu dois penser que je suis pécheur, c'est ça? Je dis oui. Oui. Mais Jésus n'est pas venu pour condamner. Il a fait l'analyse, il a diagnostiqué notre situation et il est venu pour apporter une réponse. Et quand Nicodème lui a parlé, il a dit qu'il n'est pas venu pour juger, pour condamner le monde parce que le monde est déjà condamné, il est venu pour sauver. Nous avons tous besoin d'être sauvés. Nous avons tous besoin d'être sauvés de nos péchés. Pourquoi? Parce que nous croyons tous au péché, sauf que nous croyons que les autres sont pécheurs, pas nous. Et nous vivons dans une société où il faut déculpabiliser. Et quand vous parlez de péché, culpabiliser les gens. Mais nous ne culpabilisons pas les gens, c'est une question d'analyse et de diagnostic. Lorsque vous allez voir un médecin qui vous dit que vous aviez un problème cardiaque, il vous culpabilise. Il vous dit la vérité. C'est l'analyse objective de votre condition. Jésus a fait l'analyse de notre condition, a décidé d'apporter une réponse. Le sens de Noël, le cadeau suprême, c'est le don du salut. Le cadeau de Dieu pour nous, c'est le pardon. Ce n'est pas la culpabilité, c'est le pardon. Jésus ne dit pas vous êtes pécheur pour dire ah, vilain pécheur. Vous là, vous n'allez jamais vous approcher du royaume, vous êtes des pécheurs. Il a dit venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Il est venu apporter une solution à la condition humaine. Nous croyons au péché, c'est pour cela que nous mettons les gens en prison. Parce que nous considérons qu'ils ont péché. Nous n'utilisons pas ce mot. Ils ont enfreint la loi. La loi de qui? Nous avons le droit d'édicter des lois, mais Dieu non. Nous avons le droit de régir la société, et Dieu non. Nous avons le droit de dire tel comportement est acceptable, tel n'est pas, et Dieu non. C'est nous qui sommes pécheurs. nous pouvons considérer certains comportements comme étant inacceptables. Combien même Dieu. Mais Dieu, lui, ne nous envoie pas en prison, il nous envoie en sauveur. Nous avons essayé toutes sortes de programmes pour réformer les gens. Après, on les met en prison, on les envoie à l'école, on les parque dans des endroits et on les fait faire du travail pour dire qu'il faut qu'ils changent. Mais il n'y a qu'un seul qui peut changer le cœur humain.
Amen.
C'est Jésus. Amen. Il est venu pour nous sauver. Si nous ne croyons pas au péché, de quel droit nous reprenons les enfants? On devrait considérer que tout était bon. Si toute notre façon d'être et de faire est bon, que Dieu, de quel droit? Moi, pécheur. Alors, les parents, de quel droit Andrew, pécheur? Lorsqu'Andrew arrive et qu'il se met à table et qu'il mange et qu'il n'attend personne et qu'il met la nourriture partout, nous n'avons pas le droit de le reprendre. Si Dieu n'a pas le droit de dire que nous avons besoin d'être sauvés. Parce que nous sommes convaincus du fait que nous avons un regard autre qui nous permet de voir les choses différemment des gens qui violent la loi. Que lorsque quelqu'un décide d'assassiner deux enfants, quelque chose qui ne va pas. Et c'est ça notre barème de justice. Dieu est juste et Dieu est pur et Dieu est saint. Et ce qui à nos yeux semble bon, à ses yeux ne sont pas bons du tout. Jésus n'est pas venu pour condamner, il est venu pour sauver. Il est venu pour délivrer, il est venu pour pardonner. Pardonner. La première chose lorsqu'on vient à Jésus, c'est qu'on reçoit le pardon.
Amen.
Les gens peuvent ne pas vous pardonner, mais Dieu vous pardonnera.
Amen.
J'entends toujours les gens dire, ah, c'est impardonnable. Ah, je le pardonnerai, mais à jamais. Dieu ne dit jamais ça.
Amen.
Quand vous venez à cause de Jésus, parce que Jésus est venu sur terre, parce que Jésus a porté nos péchés, nous sommes tous des candidats au pardon.
Amen.
Et quand Dieu pardonne, il pardonne complètement. Ce n'est pas un jour, vous faites quelque chose, il revient, vous dites, au fait, j'avais dit que c'était fini, mais attends. Pardon total.
Pardon total.
Dieu pardonne complètement. C'est le don du pardon. C'est le don du pardon et la capacité de vivre différemment. La capacité de dire non au péché. Les gens pensent qu'ils sont libres parce qu'ils font n'importe quoi. Mais même, je suis libre. Non, mais tu n'es pas libre, c'est que tu es lié. Tu n'as pas la capacité de dire non.
Amen.
La capacité de regarder quelque chose en face et de dire je ne le fais pas. Qui donne? C'est le don de Noël. C'est le cadeau suprême.
Amen.
Le cadeau du pardon, le cadeau qui nous donne la capacité de résister, de dire, je ne fais pas ça, voilà ce que je fais, de faire un choix. Les gens pensent que les chrétiens sont bons ou sont gentils, quand ils pensent qu'ils sont gentils, parce qu'ils sont obligés. Ils ne sont pas obligés, ils ont la capacité d'eux. Glory to God. La capacité d'eux. Et parfois, il y a quelques jours, quelqu'un était très content de moi parce que la personne m'avait fait il y a eu quelques incidents où la personne n'a pas été très sympathique. Et après, il me regardait, s'attendait à ce que je... Et je n'ai pas fait, pas parce que je me sentais obligée d'être gentille, parce que j'étais chrétienne, je n'ai pas fait, parce que si je ne suis pas gentille, ils vont penser que les chrétiens sont méchants. Non, simplement, je n'ai ressenti aucun besoin d'être méchant là. J'ai prié pour lui et j'ai prié pour moi et c'était fini. La capacité de dire non. Le cadeau de Dieu répond à nos besoins les plus profonds. Le besoin de pardon. Le besoin de liberté. Le besoin de guérison. Le besoin de délivrance. Et Jésus est venu pour guérir, pour délivrer, pour libérer. Et il a dit lui-même, ne me croyez pas. Je vais vous lire un passage. Ah. Jésus a dit ceci dans Luc chapitre 4. Si vous avez vos Bibles, tournez et regardez avec moi. Luc chapitre 4, au verset 18. It's so wonderful to be
A child of God, it's so wonderful, so wonderful, so wonderful.
Est-ce que vous y êtes? Faites-moi signe quand vous arrivez à Luc chapitre 4.
Good. Thank you, Jesus.
L'Esprit du Seigneur est sur moi. Le cadeau suprême. Jésus explique, je suis venu pour vous apporter ceci.
Et c'est mieux que le Kindle.
Parce qu'il m'a oint pour annoncer une
bonne nouvelle.
Décidément, ça revient tout le temps.
Pour annoncer une
bonne nouvelle.
Parfois, lorsque vous parlez aux gens du Seigneur, vous leur parlez de ce que Dieu va faire dans leur vie. Et les gens disent, non, mais attention, il ne faut pas lui donner trop d'espoir. Parce qu'il risque d'être déçu.
Dieu ne déçoit jamais.
Mais jamais. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi?
Jamais.
Glory to God. Et de la part de quelqu'un qui était très sceptique. Et plus que sceptique, très hostile.
Envers ces chrétiens. Sont hypocrites.
C'est ce que ça fait parfois de grandir dans l'Église. Ah, mais nous bénissons le Seigneur pour nos jeunes ici qui ont eu l'Évangile dans leur biberon
et qui aiment toujours Jésus.
Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir. Dites guérir.
Guérir.
Le cadeau suprême, le cadeau qui guérit. Il répond à nos besoins les plus profonds. Non pas les besoins passagers. Non pas les besoins qui changent tous les ans. Non pas les désirs momentanés. Mais les besoins les plus profonds. Les besoins que parfois on a du mal à communiquer à quelqu'un d'autre. Ou parfois quand on parle, on a l'impression, mais il ne comprend pas. Non, mais écoute, je veux t'expliquer ce que je ressens, mais non, en fait, c'est que, et on se fatigue à essayer d'expliquer. Parce qu'il y a des choses que personne d'autre ne comprend. Mais le cadeau suprême, c'est le cadeau de guérison. Il guérit au plus profond de notre être. Même ce que nous avons du mal à expliquer. Et quand nous avons fini d'expliquer, que personne ne comprend toujours pas. Les besoins les plus profonds. Il m'a envoyé pour guérir, pour proclamer aux captifs la délivrance. Délivrance. Ouf! Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Nous avons besoin que Dieu nous ouvre les yeux. Quand je suis venue au Seigneur, c'était quelque chose d'assez extraordinaire, parce qu'un jour, j'étais là, j'avais une vision des choses et du monde très particulière, très, très particulière. Ah, glory to God. Et un jour, j'ai prié chez moi pour donner ma vie à Jésus, en partie parce que je n'avais pas confiance dans les chrétiens, donner ma vie à Jésus. Et à partir de là, j'avais l'impression qu'on avait enlevé un voile. Je commençais à voir les choses différemment. Évidemment, il a fallu me convaincre de beaucoup de choses, que Jésus, oui, mais le reste. Mais pourquoi je ne peux pas faire ça? Bon. Mais on voit là, cette conscience de faire partie d'un monde spirituel, surnaturel, différent, d'être physiquement dans le monde dans lequel j'ai toujours vécu, mais maintenant d'être entré dans quelque chose de nouveau, ce monde réel, la réalité du monde spirituel de Dieu. Parce qu'il est venu annoncer aux aveugles le recouvrement de la vue. Nous avons besoin de voir. Nous avons besoin d'entendement. I want to see Jesus. I want to see Jesus. Pour envoyer libres les opprimés. Le cadeau suprême. Une des grandes joies que l'on a lorsque les gens viennent au Seigneur, c'est quand on commence à prier et que les jougs, les poids, les qu'ils ont portés toute leur vie, Dieu les enlève. Les angoisses, Dieu les enlève. Les peurs, Dieu les enlève. Les tourments, Dieu les enlève. Et la paix vient. Et la joie. Parce que c'est une
bonne nouvelle.
pour envoyer libres les opprimés. Libres. Dieu aime la liberté. Il donne la liberté. La liberté, ce n'est pas le fait de faire n'importe quoi et que personne ne me reprenne. La liberté, c'est être totalement libre de toute oppression, tout joug, toute compulsion, toute dépendance, toute addiction, tout sentiment d'être forcé, obligé, toute pression. Notre génération vit sous pression. Certains sont tellement sous pression que c'est tel médicament par-ci, tel médicament par-là, tel médicament pour se réveiller, tel médicament pour dormir, tel médicament pour marcher dans la rue, et encore un médicament pour prendre le métro. C'est l'oppression. Le cadeau suprême, c'est la libération.
Amen.
La délivrance.
Amen.
De toute oppression.
Amen.
Il faut recevoir. Et souvent, les chrétiens laissent ces choses si merveilleuses et se laissent prendre dans les mêmes choses que les gens qui n'ont pas reçu Jésus. Et là, il faut de nouveau s'asseoir et regarder. Est-ce que vous allez regarder? Regardez. Regardez. Et se laisser de nouveau imprégner de la puissance de Jésus pour guérir et pour délivrer. Le cadeau suprême, le cadeau qui répond aux besoins les plus profonds. Le besoin d'amour. Do you love me? No. Il y a un grand théologien à qui on a posé la question. Quelle est la chose qui est la plus importante pour toi? Quel est le sens pour toi de l'évangile? Après avoir écrit autant et étudié autant, quelle est la chose qui te frappe? Si tu veux résumer l'évangile, il fait « Jesus loves me. Yes, I know. » Well, the Bible tells us « Jesus loves me. Yes, I know. » Ce besoin, derrière chaque attitude, chaque comportement humain, c'est le besoin d'être aimé, le besoin d'être apprécié, le besoin de compter pour quelqu'un. Et derrière beaucoup de bêtises, c'est le sentiment de ne pas être aimé. Le sentiment d'être méprisé, le sentiment de ne pas compter pour grand-chose. Il y en a des réactions, des comportements, des attitudes, parce qu'on a ce sentiment que, et moi alors, et Jésus a répondu à cette question de moi alors, il a dit, moi.
Amen.
Oh, God is good.
Amen.
God is good.
All the time.
He put a song of praise in his heart of God is good. God is good all the time. Vous savez le cadeau qui est éternel? All the time. All the time. Ça ne change jamais. Le cadeau qui ne flétrit jamais. Le besoin d'amour. 2 Corinthiens 5, 19 nous dit ceci. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même. Pour ceux qui pourraient encore avoir un doute, qui pourraient encore avoir les vieilles images de Dieu, qui serait ce père fouettard qui veut diriger ma vie? Et moi, je vais être libre. La seule liberté, c'est en Jésus. La vraie liberté, c'est Jésus. Il était en crise réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes.
Amen.
Le divin, cette idée selon laquelle Dieu ne fait que nous culpabiliser sans tenir compte de leurs fautes. Et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Le cadeau de la réconciliation.
Amen.
Que Dieu réconcilie les hommes avec lui-même à travers Jésus.
Amen.
Noël, c'est l'offre de la réconciliation.
Amen.
Dieu envoie son Fils et vous offre une nouvelle relation d'amour.
Amen.
La réconciliation. Et continue dans ce passage, soyez réconciliés. Que nous portons ce message pour dire au monde, soyez réconciliés avec Dieu. Est-ce que vous avez envie de le prêcher ce matin?
Oui.
Le prêcher à votre voisin. Dites-lui, sois réconcilié
avec Dieu.
C'est le cadeau suprême, le cadeau de la réconciliation. La réconciliation. Vous savez à quel point il est difficile de réconcilier deux amis qui sont fâchés? De rien que de les amener à vouloir discuter. Oui, mais moi, je ne suis libre qu'à 10 heures, mais moi, à midi. Parce que je sais que lui, à midi, il travaille. Comme ça, je montre que je suis bien disposée, mais je sais qu'il n'est pas libre, donc ce n'est pas de ma faute. Je ne suis libre qu'à midi. Désolé, pasteur. Bon, et si on essaie un autre jour, disons le samedi, vous êtes libres tous les deux le samedi, on peut dire 14 heures. Ah non, non, c'est l'heure de mon repas. Et après, on les amène ensemble, les deux sont là. Ça regarde en chien de faïence. Surtout les gens qui se sont aimés. La haine est le double de l'amour qu'ils ont ressenti. Et maintenant, la réconciliation. Oui, mais même peut-être... Ah non, si c'est ça! Ah non. Bon, d'accord. Pardonnez-vous. OK, je te pardonne. Non. Demande-lui pardon. Ah non, je lui pardonne. Ça, c'est déjà un pas. Hein? Je te pardonne. Non, mais je te pardonnais. Eh? À déjeuner, ah non, je t'ai pardonné. Ça, c'est déjà suffisant. Parce que je ne vais pas aller en enfer. Tu comprends? La réconciliation. Celui qui avait le droit de retenir le pardon a décidé de faire lui-même le nécessaire pour pouvoir nous pardonner. Est-ce que vous me suivez? Nous ne nous sommes pas sacrifiés pour que Dieu nous pardonne. Nous pouvons marcher sur nos genoux pendant 20 kilomètres. Ce n'est pas pour ça qu'il va nous pardonner. Il nous a pardonné en nous donnant un don gratuit. Jésus, le cadeau suprême, le pardon, la réconciliation, que nous pouvons devenir amis de Dieu. Non pas regarder Dieu de loin, parce que nous savons qu'il est assez erratique. Beaucoup de gens pensent cela. Ils vont lire un passage de l'Ancien Testament qu'ils ne comprennent pas. Ils disent, c'est Dieu, c'est. Et nous adoptons une supériorité morale vis-à-vis de Dieu.
Il devrait avoir honte. Unbelievable. Unbelievable.
God is so good. La réconciliation. Dieu nous offre la réconciliation. Il efface l'ardoise. Il ne tient pas compte des péchés. Il offre l'amour. Cet amour qui ne change jamais. Cet amour qui n'est pas fonction des circonstances. Cet amour qui ne change pas lorsque nous prenons du poids. Oui, mesdames. Cet amour qui ne nous oblige pas à recourir à des artifices. Cet amour, la personne, nous avons un chant qui dit, tu vois le fond de mon cœur et ton amour nous change. Est-ce que vous comprenez que le cadeau suprême de Dieu répond à notre besoin le plus profond, le besoin d'être aimé de façon inconditionnelle? Et quand nous acceptons Jésus, que nous lui donnons nos vies et que nous commençons à communier avec Dieu, nous prenons conscience de cette réalité spirituelle qu'est le monde de Dieu dans lequel nous sommes entrés et son amour devient une réalité. Et Dieu fait de nous des gens solides et forts qui peuvent aimer les autres sans leur demander quoi que ce soit en retour parce que nous avons reçu l'amour qui est parfait, qui est total et tout ça à cause de Jésus. Et la parole s'est faite chair. Vous savez, récemment, le monde a pleuré le départ de Nelson Mandela. J'ai un neveu qui s'appelle Nelson. Il s'appelle aussi Barack. Ouais, c'est mon frère. Il n'a pas demandé mon avis. Mais sagement, on l'appelle Nelson, le petit. Un enfant adorable. Et le monde a pleuré le décès de Nelson Mandela. Et la chose que tout le monde retient à son sujet, c'était son désir de réconciliation. qu'un homme qui a passé 27 ans en prison est sorti sans amertume et a compris que l'intérêt de son pays, c'était de réconcilier et non pas de diviser. C'était de faire en sorte que tous puissent vivre ensemble et non pas se lancer dans une chasse aux sorcières. Et c'est quelque chose que le monde retient à son sujet. Et c'est quelque chose qui a fait de lui l'icône de son pays. Ce qui traduit à quel point les hommes sont conscients, les êtres humains sont conscients de l'importance de la réconciliation. Ce que Dieu nous offre en Jésus, c'est le cadeau de la réconciliation. Je vous invite aujourd'hui, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Il ne vous a rien fait. Malgré ce que vous pouvez imaginer, il ne vous a rien fait. Quel que soit ce que vous avez pu vivre dans votre vie, ce que les êtres humains ont pu faire, Dieu n'est pas responsable. Il n'est pas fautif. Et quand nous comprenons cela, nous comprenons que celui qui s'est donné pour nous ne peut certainement pas être responsable de notre malheur. Si l'on était responsable, pourquoi il se donnerait autant de peine pour nous sauver? Que vous compreniez, que vous ne compreniez pas le pourquoi ni le comment, sachez une chose, ce que Dieu fait, c'est sauver, ce n'est pas détruire. Il nous offre la réconciliation, il nous offre l'amour, il nous offre l'acceptation. Dans 1 Pierre 2, 10, il nous dit qu'à vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. C'est beau ça. Vous êtes maintenant le peuple de Dieu. C'est le cadeau suprême. Le peuple de Dieu.
God is so good.
Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce. Dans ce passage que j'ai cité sans le nommer dans Jean chapitre 1, vous connaissez ce passage en Jean chapitre 1, ce passage merveilleux sur la divinité de Jésus. Au verset 12, il nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu vous offre une famille. Dieu vous offre la vraie filiation. Le cadeau de Noël, c'est « Je deviens enfant de Dieu ». Mais nous sommes tous enfants de Dieu. Non, nous sommes tous la création de Dieu. Mais devenir son enfant est un choix. Mais c'est une offre qu'il nous fait. C'est un cadeau qu'il veut donner à chacun de nous en cette saison, chaque jour. Le cadeau de l'amour de Dieu, de la famille de Dieu, alléluia, la possibilité de devenir enfant de Dieu. Et c'est plus que théorique. C'est un cadeau qui apaise la tempête. C'est un cadeau qui neutralise les craintes. C'est un cadeau qui calme les douleurs. C'est un cadeau d'une grande joie. C'est un cadeau qui répond à nos questions les plus profondes. Sur notre identité, qui nous sommes, ce que nous faisons sur la terre, ce que nous allons devenir, où nous allons, quel est le sens de notre vie. Quand nous recevons le cadeau de Dieu en Jésus, Dieu commence à nous montrer ce qu'il avait sur son cœur quand il nous a amenés à l'existence. Il y a un passage que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu, c'est un passage où Dieu appelle Jérémie. Vous savez, pour la petite histoire, je suis interprète et un jour, j'étais en réunion. Je ne veux pas vous livrer de secrets, rassurez-vous. Et j'étais avec quelqu'un qui ne connaissait pas très bien la Bible. C'était une réunion dans un contexte catholique. Et j'étais avec quelqu'un qui ne connaissait pas trop la Bible. Et la personne commençait en disant, mais Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Et tout de suite, je savais qu'il faisait référence au livre de Jérémie. Et la personne qui fait, Jeremy, what do you see? Et si vous êtes anglophone, vous savez que ça ne passe pas du tout parce qu'en anglais, on dit Jeremiah. Le prophète, c'est Jeremiah. Elle dit, Jeremy, what do you see? Aucune idée. Enfin, donc, parlons de Jérémie. Quand Dieu a appelé Jérémie, Dieu lui a expliqué que avant qu'il ne vienne au monde, avant même qu'il ne devienne fœtus, Dieu le connaissait. Et Dieu l'a appelé. Dieu vous connaît. Dieu vous a appelé. Vous n'allez peut-être pas être prophète, comme Jérémie, mais Dieu a un appel sur chaque vie. Dieu a quelque chose de précis vous concernant. Et quand vous recevez le cadeau que Jésus donne, le cadeau suprême, vous commencez une aventure avec Dieu. Et vous commencez à entendre et à voir ce que lui avait dans son cœur vous concernant. Et c'est personnel, dites personnel. C'est attention personnelle. Jésus personnalisé. Personnel. Pour chaque individu. Chaque personne. Et nous ne sommes pas des chiffres comme nous en avons sur notre carte d'identité. Nous sommes des individus. Et nous aime chacun de façon parfaite. Quand nous recevons Jésus, nous recevons le don, le cadeau qui dure à toujours. Il y a une vingtaine d'années, je l'ai reçu. Est-ce que vous pouvez constater que le cadeau est toujours là?
Amen.
Il n'est pas usé.
Amen.
Je ne l'ai pas échangé contre un modèle récent. Il est toujours plus merveilleux que tout ce que je peux imaginer. Et chaque année, on grandit, on le découvre davantage. On est davantage émerveillé par sa personne. Non pas le petit bébé, ni le petit Jésus, n'est pas le petit Jésus. Nous célébrons sa venue sur la terre, mais nous ne sommes pas en train de célébrer le petit Jésus, parce qu'il est le Seigneur de gloire. C'est un moment dans l'histoire qui est vite passé. Et Jésus, aujourd'hui, est tel qui se révèle dans Apocalypse, entouré de gloire. Merveilleux. À tel point que son fidèle apôtre Jean, qui était si proche, a vu Jésus ressuscité et il est tombé. Il était totalement confondu. Il a repris sa gloire céleste qu'il a laissée de côté quand il est venu sur terre. Il a fait tout ça pour vous. Jésus, quel nom merveilleux! L'apôtre Paul, en écrivant à son fils Timothée, nous allons conclure avec cela, il lui a dit ceci, « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. » Cet homme était parmi ceux qui pouvaient être considérés comme des justes. Il était phariséen. C'était un homme religieux qui pensait savoir. Et quand il a rencontré Jésus, il a reconnu que lui était le premier de ceux qui avaient besoin d'être sauvés. À tous ceux qui l'ont reçu, nous l'avons lu, à tous ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je vous invite à recevoir ce cadeau cet été. J'ai hâte que l'été arrive pendant cette saison. Et ne me dites pas, mais je l'ai reçu il y a 20 ans. Si vous avez cette attitude, vous avez vraiment besoin de le recevoir. Quand un chrétien devient blasé, il a besoin de se mettre à genoux.
Amen.
Parce que ce que nous avons reçu est tellement merveilleux que lorsqu'on devient blasé, on a un sérieux problème.
Amen.
Qui peut être réglé. Vite. Alléluia. Je vous invite à regarder, à faire comme les bergers, à le contempler. Et à lui donner toute votre vie. À le recevoir. Seigneur, je reçois le cadeau suprême. Alléluia. Recevez-le chaque jour, chaque jour, chaque jour,
chaque jour,
chaque jour. Il y a toutes sortes de cadeaux et il y a des sites qui vont vous donner des listes de cadeaux. Il y a des sites qui vont donner des cadeaux qui ne s'arrêtent jamais. Vous savez, je vous ai parlé de ce gift, the gift that keeps on giving. Il y a des sites qui vont vous dire, oui, il faut donner des recettes de cuisine et des recettes de votre grand-mère. Des choses tellement merveilleuses, des recettes, et ils vont pouvoir cuire, et cuire, et cuire, et recuire, et recuire, et décuire. Et c'est un cadeau qui va continuer toujours. Et certains vont dire, oui, mais il faut envoyer une lettre, une jolie lettre. Ils vont lire, et relire, et relire. Mais est-ce que vous savez que les jolies lettres, au bout d'un moment, on ne voit plus la joie dans la lettre? Il y avait un livre que j'aimais beaucoup quand j'étais à l'université, je le trouvais très profond. C'était un livre spirituel, pas chrétien. À l'époque, je n'aimais pas du tout les livres chrétiens. Oh là là. devenir fanatique. Et quoi encore? Et un livre spirituel que j'aimais beaucoup. Et je lisais ce livre. Et je l'ai perdu. Et quelques années après, je l'ai repris. Mon souvenir de la manière dont j'avais apprécié ce livre, je l'ai rejeté. Pourquoi je l'avais aimé à ce point? Tout change. Dieu seul ne change pas. Tout change. Tout change. Nous changeons. Intérieurement, extérieurement. Extérieurement. Vous savez, 20 ans, ça n'a pas de sens. Mais attendez quelques années. Glory to God. Tout change. Tout change. On dit que c'est une question de vitamine B. Vous comprenez? Parce que de temps en temps, on regarde. Ah. Mais ça revient. Tout change. Dieu ne change pas. Son amour ne change. Le cadeau qu'il donne ne change pas. Ça ne change pas. Simplement, nous découvrons chaque fois à quel point c'était au-delà de ce que nous pensions. Quand nous regardons, quand nous allons voir, quand nous nous plongeons chaque jour dans sa parole, quand nous demandons la révélation, quand nous décidons que nous voulons vivre au-delà du monde matériel, des considérations purement matérielles. Dieu nous permet de voir. Et nous découvrons le cadeau suprême. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné. C'est le cadeau suprême, son Fils unique. Et il a donné parce qu'il nous a aimés. Je ne sais pas pour vous, mais il y a des gens qui ne m'aiment pas. C'est étonnant, oui, je sais. Il y a des gens bizarres sur la terre. Je suis d'accord avec vous. J'ai senti que c'est ce que vous pensiez, effectivement. Ouais, moi aussi, je suis d'accord avec vous, c'est ça. C'est étonnant. Mais l'amour de Dieu est parfait, inconditionnel. Nous ne le méritons jamais. Et beaucoup de gens ne viennent pas à lui en pensant qu'ils doivent le mériter. Quelqu'un partageait avec moi lorsqu'il parlait aux gens dans la rue, parce qu'on aime aller dans la rue parler avec les gens. Les gens leur parlent de tout, autant leur parler de Dieu. Et on aime aller dans la rue parler aux gens. Et quelqu'un disait, parce qu'il vivait dans un... Il avait un style de vie, il savait pertinemment que c'était contraire à la parole de Dieu. Il disait, oui, mais moi, Dieu ne m'acceptera pas. Et j'ai dit, mais il fallait lui dire, mais bien sûr que Dieu t'accepte. Dieu accepte tout le monde. Il va te demander de changer, mais il t'accepte. Jésus est venu, comme j'ai dit à quelqu'un, parce que nous étions pourris. Et pas uniquement tel type de personne ou tel type de personne. Ah oui, mais ce style de vie, là, vraiment, pour venir au Seigneur. Non, 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 nous étions tous pourris.
Amen.
Et Jésus est venu à cause de ça. Et il nous accepte. Il nous accepte. Oh, il nous accepte.
Yes.
Il nous accepte.
Alléluia.
Il nous accepte. Est-ce que vous voulez dire à votre voisin, il t'accepte.
Il t'accepte.
Il t'accepte. La question est celle-ci. Est-ce que toi, tu veux l'accepter?
Est-ce que toi, tu veux l'accepter?
Prions ensemble. Alléluia. Je vais vous inviter ce matin à prier. Nous avons quelques instants pour prier avec les gens qui le souhaitent. Nous allons faire une prière générale ensemble. Yes, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui disent, en cette saison de Noël, je voudrais... J'ai déjà reçu le Seigneur, mais je voudrais le regarder de nouveau. Je voudrais le regarder. Et je voudrais réaffirmer ma confiance en lui, mon amour pour lui, redémarrer une relation de passion avec lui. Si c'est votre cas, je vous demande de lever la main. Thank you, Jesus. Je l'ai déjà reçu. Je ne demande pas si vous n'avez jamais reçu et vous voulez le recevoir. Je l'ai déjà reçu. Je suis chrétien. Je sais que je l'ai déjà reçu. Mais je veux le regarder de nouveau en cette saison. Et je veux réaffirmer mon amour pour lui et mon engagement envers lui. Si c'est votre cas, je vous demande de lever la main. Levez bien la main. Thank you, Jesus. Yes, yes, yes. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, me voici. Oui, je connais Jésus. Je l'ai reçu. Mais je dis en cette saison, Père, je veux une nouvelle révélation de Jésus. Je veux l'aimer comme il veut être aimé. Je veux le suivre comme je dois le suivre. Seigneur Jésus, me voici. Je te remercie d'être venu pour moi, d'avoir ouvert mes yeux pour te connaître. Je te donne toute ma vie. Je vais te suivre. Je reçois ton pardon. Je reçois la réconciliation. Et je te dis, Seigneur, je vais faire ta volonté. Fais de moi une lumière qui brille dans ma génération. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Si vous n'avez jamais fait une prière pour recevoir Jésus, vous voulez faire cette prière maintenant. Oh, thank you, Lord. God is so good. God is so good. Oh, thank you, Jesus. Et vous avez compris que Dieu vous accepte. C'est pour ça que Jésus est venu. Il est le cadeau suprême qui répond à nos besoins les plus profonds. Glory to God. Le besoin de pardon, le besoin d'amour, le besoin de réconciliation, le besoin de salut, le besoin de délivrance. Et vous voulez le recevoir ce matin, je vais vous demander de lever la main, comme les autres ont fait précédemment. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes. Thank you, Jesus. Tout le monde en prière. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Vous le reconnaissez, il vous reconnaît. Vous l'acceptez, il vous accepte. Hallelujah. Oh, Jesus is wonderful. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut donner sa vie à Jésus aujourd'hui? Maintenant, nous allons prier ensemble. Père Céleste,
me voici.
Je te donne toute ma vie.
Je te reçois. Seigneur Jésus.
Je reçois le cadeau suprême
que tu m'offres, Père.
Je reçois Jésus.
Je te demande pardon, mon Père,
pour tous mes péchés.
Je te demande pardon
de ne pas t'avoir reconnu.
Et aujourd'hui,
je te donne ma vie.
Je vais te suivre.
Je veux vivre la grande joie
que toi seul donne.
Je te demande,
fais de moi
une lumière éclatante
dans ma génération.
Change ma vie.
Transforme-moi.
Bénis ma vie.
Réponds à mes besoins
les plus profonds.
Ouvre mes yeux
pour te voir.
Pour te connaître,
pour connaître ton amour.
Père,
je te remercie
parce que c'est un nouveau jour.
Tu changes ma vie
et à partir d'aujourd'hui,
je ne serai plus la même personne.
Merci, Père,
au nom de Jésus.
Amen.
Alléluia.
Alléluia.
La parole de Dieu nous dit qu'il y a de la joie au ciel. Vous savez quand il y a de la joie au ciel? Quand vous avez une nouvelle voiture?
Non.
Un nouveau poste?
Non.
Quand est-ce qu'il y a de la joie au ciel?
Exactement.
Alléluia. Il y a de la joie au ciel ce matin.
Yes.
Glory to God.